dans l'Homélie 12 sur l'Épître aux Hébreux, donc c'est sur Melchisédek. Je voulais revenir un instant là-dessus. Saint Paul veut montrer la supériorité de la nouvelle alliance. C'est du reste très classique, mais c'est du bon Saint Jean Chrysostome. Saint Paul veut montrer la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Nous avons déjà dit qu'il utilise le type comme un élément de crédibilité en faveur de la vérité. Le passé confirmant le présent pour aider la foi des auditeurs. Le plus admirable est que le type lui-même, la simple figure de ce qui devait venir, l'emporte déjà sur les faits du Premier Testament. L'apôtre écrit donc, « Ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui vient au-devant d'Abraham et le bénit, Abraham lui offrit la dîme de tout. » Soulignez bien, qui vient au-devant d'Abraham. C'est pas dit directement, on voit bien comment c'est lui qui vient au-devant, il a l'initiative. Ayant ainsi résumé l'histoire, saint Paul contemple le mystère. Vous voyez la méthode exégétique, hein? C'est ça qui est intéressant à voir dans saint Jean Chrysostome. Ayant ainsi résumé l'histoire, saint Paul contemple le mystère et commence par scruter le nom même de Melchisédek. D'abord, ce nom veut dire roi de justice. Mais qui est le roi de justice, sinon Jésus-Christ notre Seigneur? Melchisédek est aussi roi de Salem, le nom de sa ville, donc roi de la paix, puisque Salem signifie, Shalem signifie paix. Ce qui s'applique encore au Christ, car c'est lui qui nous a justifiés et qui a pacifié le ciel et la terre. Y en a-t-il un autre que l'on puisse appeler roi de justice de paix? Ensuite, l'apôtre signale différentes caractéristiques, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de sa vie. Assimilé au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour l'éternité. Seulement de Melchisédek, il demeure prêtre selon l'éternité, au-delà du temps. Donc, au-delà d'une alliance temporelle. L'alliance dernière avec le Christ se termine dans la gloire. De Melchisédek, nous ignorons le commencement de ses jours et la fin de sa vie, parce qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'Écriture. Nous ignorons aussi le commencement et la fin du Christ, mais pas pour la même raison. Melchisédek est la figure, son commencement et sa fin ne sont pas écrits dans le livre, Jésus est la vérité, et simplement, il n'a pas de commencement ni de fin. De même, les noms pour Melchisédek, roi de justice et roi de paix, ne sont que des appellations. En Jésus, au contraire, nous avons la vérité des choses. Le Fils n'a pas de commencement, il a un Père, sinon comment serait-il Fils? Mais il n'a ni commencement ni fin. Et il bénit le dépositaire de la promesse. Comme la promesse était pour les Juifs le comble de l'honneur, saint Paul montre, que la logique et le sens commun donnent le pas à Melchisédek sur Abraham. Sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, la simple figure du Christ est au-dessus même d'Abraham. Alors, le pain et le vin, également, qui nous sont la figure, donc. En somme, la figure de Melchisédek, telle que la dégage l'Épître aux Hébreux, éclaire notre compréhension du Christ lui-même sur les points suivants, qui sont essentiels. Le Christ est en même temps roi et prêtre. On peut dire que c'est la première chose qui est affirmée par rapport au sacerdoce du Christ. C'est le point de vue de la royauté. Dans l'Ancien Testament, on comprend. À cause de l'aspect de l'autorité qui est toujours très affirmé dans l'Ancien Testament, beaucoup plus que dans le Nouveau. Dans le Nouveau, on dira qu'au fond, c'est avant tout sa filiation d'amour, plus que sa royauté. Et au fond, le sacerdoce passe avant la royauté. Tandis que dans l'Ancien Testament, au fond, il y a le point de vue de la royauté qui passe avant. Alors ça, c'est toujours très intéressant pour essayer de comprendre dans l'économie divine. Pour essayer de comprendre ce qui dans l'économie divine est premier et ce qui dans la nouvelle économie est second. Pour mieux saisir ce qui est de l'ordre de la disposition et ce qui est l'ordre, si vous voulez, de la substance. Dans l'Ancien Testament, la disposition, c'est la royauté. Et le sacerdoce est caché par la royauté, il vient ensuite. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, le sacerdoce est premier et la royauté est relative au sacerdoce.
Deuxièmement, le pain et le vin préfigurent son sacrifice. Le Christ exerce son sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, car il offrit le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et ainsi, il s'offre lui-même en véritable sacrifice pour Abraham, l'homme de la foi, et il le bénit. Car c'est par son sang qu'il acquiert la bénédiction, c'est-à-dire la rémission des péchés, pour Abraham et pour tous les élus qui l'attendaient depuis l'origine du monde. Il est vrai que l'hébreu traduit par « il offrit du pain et du vin » signifie plus littéralement « fait sortir ». Ce que certains interprètent aujourd'hui, ce n'est plus de Saint Jean Chrysostome, ça, c'est de notre cher Père, n'est-ce pas ? Alors, il est vrai que l'hébreu traduit par « il offrit du pain et du vin » signifie plus littéralement « faire sortir ». Ce que certains interprètent aujourd'hui, ce que certains interprètent aujourd'hui comme Melchisédek, comme si Melchisédek avait seulement fourni, c'est la tobe. Il souligne ça. Nourriture et boisson aux quelques 300 membres de la tribu patriarcale. Mais pourquoi donc le rédacteur de la Genèse éprouverait-il le besoin de préciser sitôt après il était prêtre du Très-Haut ? Sinon, pour expliquer l'acte proprement sacerdotal d'offrir le sacrifice. Oui, petit coup de patte à la tour. Hein ? Je vous le dis, c'est intéressant, parce que c'est intéressant de voir que de temps en temps, on réduit la parole de Dieu. C'est sûr, ça ne peut pas être autrement. Hein. L'épître aux Hébreux, c'est l'épître du sacrifice. Comme c'est difficile de faire quelque chose de commun entre les catholiques et les protestants, vous voyez. Il est évident que dans la perspective catholique, le passage de l'épître aux Hébreux a une valeur unique vis-à-vis du sacerdoce du Christ. Et puis, c'est l'inverse du pain et du vin, donc le sacrifice de la croix, donc la messe sacrifice. Tandis que dans la perspective protestante, non. Alors, vous voyez, c'est intéressant pour ceux qui veulent regarder ça de plus près, n'est-ce pas ? Il y a la petite correction qui est faite ici, et la petite correction me semble très juste. C'est pour ça que je vous la lis, parce que c'est quand même intéressant et important. Mais pourquoi donc le rédacteur de la Genèse éprouverait-il le besoin de préciser sitôt après, il était prêtre du Très-Haut ? Sinon, pour expliquer l'acte proprement sacerdotal d'offrir le sacrifice. Ajoutons que si l'on y tient, le Christ est figuré par Melchisédek, en cela aussi que lui-même a fourni la nourriture lors de la multiplication des pains. Et tout ça reste quelque chose de symbolique, hein. Tandis que la véritable nourriture, c'est qu'il a offert le pain et le vin qui est lui-même. Vous voyez ? Alors. C'est le glissement, hein. Alors, il fait ça un tout petit peu par concession. Mais ce miracle était justement signe du vrai pain descendu du ciel, qu'il était lui-même et donnerait à communier de par le sacrifice, où il serait non seulement le prêtre et l'offrant, mais la victime. Donc je vous signale ce petit passage intéressant de rectification de la traduction d'Atol. Et c'est constamment comme ça, je vous signale. C'est très bien de dire la Torah, mais rectifier, parce que c'est pas suffisant. Ça diminue un tout petit peu la parole de Dieu. Vous savez bien la parole du psaume. Les hommes ont diminué la parole de Dieu. Alors troisième point, donc vous voyez bien, je prends les points successifs. Il était roi et prêtre, le pain et le vin. Troisièmement, la religion de Melchisédek est la même que celle d'Abraham, s'adressant au même Dieu universel, créateur du ciel et de la terre. Et elle s'exprime en une même prière de bénédiction. Si en effet Genèse 12, 2, 3 nous a révélé la bénédiction de Dieu que nous avons héritée d'Abraham et qui nous est en définitive donnée dans le Christ, Melchisédek nous enseigne comment l'homme peut et doit, en retour, bénir Dieu et bénir les autres. Donc, c'est là aussi intéressant de voir ça. C'est le jeu de la bénédiction, si vous voulez, le jeu de la sagesse divine, de la bénédiction. Abraham est béni par Dieu. Il devient bénédiction, donc source de bénédiction. Et il devient source de bénédiction pour tout son peuple. Tout le peuple d'Abraham est béni en Abraham. et Abraham s'achève dans le Christ. Nous, nous sommes bénis par le Christ. Et le Christ, vous voyez, qui dépasse évidemment la promesse faite à Abraham. Mais nous sommes bénis par le Christ. Et pour bien nous faire comprendre cela, c'est justement que Abraham lui-même, qui est la bénédiction, est béni par Melchisédek. Oui, c'est assez facile à comprendre. Hein. Abraham, bénédiction de Dieu. Je crois que ça c'est très important. Et parce que le propre du sacrifice, le propre du prêtre, il bénit. Bénédiction liée à la fécondité. Toujours. La bénédiction est toujours liée à la fécondité. Donc, Abraham bénit la bénédiction. Abraham n'est pas prêtre au sens propre, il est père. La paternité d'Abraham. Ça, c'est bien évident. Et c'est un mystère de fécondité. Et ce mystère de fécondité est bien montré par ce fait que Dieu le bénit. Béni comme père. Et tout le peuple d'Israël est béni en Abraham. Tout le peuple. Parce que Abraham, il est père, donc il est source. Il est premier par rapport à tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël est béni en Abraham. Le Christ. Le Christ n'est pas béni en Abraham. Hein? Puisque la bénédiction donnée à Abraham est en vue du Christ. Donc on ne peut pas dire que le Christ est béni en Abraham. Hein? Et notre bénédiction, nous, elle vient du Christ. Pour bien nous faire comprendre cela, on comprend comment lui qui est béni de Dieu va être béni par Melchisédek. Et Melchisédek, il dit directement au Christ. Les deux bénédictions d'Abraham, hein? La bénédiction qu'il reçoit directement de Dieu et la bénédiction qu'il reçoit de Melchisédek. Parce que Melchisédek le bénit. Lui qui est béni de Dieu. Ça prouve qu'il avait encore besoin du mot de bénédiction. Et une bénédiction qui est une bénédiction du prêtre, ou du sacerdoce. Et ce sacerdoce, il est roi. Oui, père, roi, prêtre. Et le père, il est béni par le prêtre. Il reçoit la bénédiction du prêtre, de ce prêtre qui est roi. Il préfigure le Christ. Dans le Christ, le sacerdoce est premier, la royauté est ensuite. Et le sacerdoce, royal, est père. Il a reçu du père toute autorité, la paternité. On va retrouver les trois. Je dis ça, c'est parce qu'au fond, c'est ça qu'on doit toujours essayer de comprendre. C'est difficile à bien saisir. Et je crois que c'est un des lieux où on doit le saisir, si vous voulez. On doit le saisir comme dans la révélation elle-même qui nous est montrée à travers la Genèse et à travers l'Épître aux Hébreux. Puisque c'est cela sur lequel on insiste beaucoup. Et toute la théologie, je crois que c'est là où il y a des courants différents dans la théologie. Les courants différents de la théologie, c'est l'ordre qui existe entre les trois. Et la diversité de l'ecclésiologie dépend des trois. Qu'est-ce que vous mettez au-dessus de tout ? Le sacerdoce, la royauté ou l'aspect prophétique ? L'aspect prophétique, ici, il n'est pas donné, il n'est pas mentionné directement. Parce que Abraham n'est pas directement prophète, il est père. Melchisédek n'est pas directement prophète, il est roi et prêtre. Et on viendra après avoir le point de vue du prophète. Hein. Le prophète va venir ensuite. Il n'est pas directement donné là. Quand il s'agit du Christ, vous voyez sacerdoce, royauté, paternité. Puis ensuite, on verra aussi le point de vue prophétique. C'est la grande question, je crois, au point de vue proprement ecclésiologique. C'est de comprendre l'ordre des trois. Parce que vous avez une ecclésiologie toute différente suivant que vous donnez l'ordre des trois dans le Christ. Alors je vous ai déjà dit, je crois que saint Thomas est le seul de son époque à tout faire reposer sur le sacerdoce du Christ. Ce sacerdoce est royal, ce sacerdoce est prophétique. Mais c'est le sacerdoce qui demande tout. Dans une perspective protestante, la prophétie serait première. voyez, dans une perspective protestante. C'est très net, c'est le prophète qui commande tout. Et le point de vue prophétique, parce que c'est le point de vue de la parole, le point de vue prophétique va relativiser le sacerdoce et va relativiser la royauté. Alors dans le point de vue orthodoxe, je n'ose pas dire que c'est la royauté qui domine, mais il y a quelque chose de très royal chez les orthodoxes, hein, faut pas l'oublier. Il y a quelque chose, oui, parce que c'est le point de vue de la gloire. Oui. Et le sacerdoce est aussi manifesté, mais pas de la même manière. Je crois que c'est vraiment la vision de saint Thomas de mettre le sacerdoce en premier lieu qui nous est montré à travers Melchizedek. Alors, à la place de mettre royauté et sacerdoce comme dans Melchizedek, c'est sacerdoce et royauté. C'est inversé parce que nous sommes plus dans l'ordre de la figure, mais dans l'ordre de la réalité. Il faut essayer de comprendre ça, petit à petit, hein, parce que c'est important à saisir. Il y a quelques grands lieux comme ça, sur lesquels il faut revenir indéfiniment, parce que ces lieux sont des lieux clés, au point de vue de l'écriture. C'est sûrement quelque chose de très important, cette rencontre d'Abraham et Melchisédek. C'est pour ça que je voulais revenir quelques instants dessus. Mais alors, je relis cela. Si en effet, Genèse 12 nous a révélé la bénédiction de Dieu que nous avons héritée d'Abraham et qui nous est en définitive donnée dans le Christ. Melchisédek nous enseigne comment l'homme peut et doit en retour bénir Dieu et bénir les autres. Déjà Noé ancrait sa bénédiction de Sem dans la bénédiction à Yahvé, Dieu de Sem. Ces deux bénédictions se commandent en effet l'une l'autre comme le double précepte de la charité. Béni est le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. L'impiété fondamentale est de prétendre ne rien devoir qu'à soi-même. De surcroît, c'est manifestement faux, car il a bien fallu recevoir d'abord au moins la vie et avec elle tout le reste. Ça, c'est l'interprétation plus moralisante, n'est-ce pas, qui est donnée ensuite. Souvent ainsi, à la bénédiction de Dieu, l'homme religieux en est assez plein pour faire déborder cette bénédiction de Dieu sur les autres. Tel Abraham, avons-nous dit, puisque Abraham devient source de bénédiction. Bon, ceci, c'était pour revenir quelques instants sur Melchisédek, comme ça me semblait important. Nous sommes donc restés, si je me souviens bien, au chapitre 16, sur la naissance d'Ismaël, que nous avions commencé. Je reprends, je continue. Il y a un petit passage très curieux, du reste, sur la naissance d'Ismaël, aussi, qui est assez curieux comme interprétation. J'y reviendrai peut-être, si nous avons le temps. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Or, elle avait une esclave égyptienne qui s'appelait Agar. Sarai dit à Abraham, « Vois, Yahvé m'a empêché d'enfanter. Va donc vers une esclave. Peut-être par elle aurai-je un enfant. » Nous avions déjà vu ça. C'est important, puisque de fait, n'oublions pas, la bénédiction de Dieu sur Abraham est une bénédiction de fécondité. Or, Sarai n'a pas d'enfant, c'est comme un obstacle à la réalisation de la promesse. Alors, certains ont interprété ici comme si Sarai avait manqué de confiance. C'est des interprétations comme celle-là. Je pourrais vous chercher des lieux, mais c'est très curieux. Sarai aurait manqué de confiance, et donc elle aurait tenté Abraham. Parce que la promesse de Dieu est là. Il sera une bénédiction, tu auras des enfants plus nombreux que le sable de la mer. Alors Sarai aurait eu peur. Hein. Sarai n'est pas toujours docile absolument au Saint-Esprit. C'est la bénédiction qui est avec Abraham, il ne faut pas l'oublier. Vois, Yahvé m'a empêché d'enfanter. Va donc vers mon esclave. Peut-être par elle aurai-je un enfant. Abraham écouta l'appel de Sarai. Alors est-ce qu'il a bien fait ou pas? Non, mais c'est la question. Et dit-on, après qu'Abraham s'était établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors la petite scène de ménage, très très nette, et là, cette scène de ménage provenant justement du fait qu'on n'a pas respecté pleinement l'ordre de la sagesse de Dieu, vous voyez. C'est très vrai que ces textes-là peuvent donner des interprétations multiples. Hein. C'est pas simple. Est-ce que Sarah était vraiment sous la mouvance de Dieu ou est-ce qu'elle a manqué de confiance? Quand il y a une promesse, on veut qu'elle se réalise tout de suite. Vous savez, on est tous comme ça. Le bientôt de Dieu n'est pas notre bientôt. Ce que Marthe disait toujours, hein. Le bientôt de Dieu n'est pas notre bientôt. Sarai voulait son bientôt immédiat. Elle voulait qu'Abraham, quand même, une postérité. Et comme elle était stérile, il fallait donc trouver le moyen. Plutôt que d'attendre le moment de la promesse. Certains ont interprété comme cela, et il y a une interprétation qui peut se comprendre comme ça, étant donné que l'initiative de Sarah n'est pas tellement heureuse. Vous voyez ? Alors quand on obéit pleinement à Dieu, ordinairement, bienheureux et pacifique. Tandis que quand on a une hâte qui n'est pas de Dieu, alors à ce moment-là, on engendre un désordre. Vous voyez cette interprétation que je peux voir ici. Je ne dis pas que c'est nécessairement celle-là, mais je vous la donne parce qu'elle existe et qu'elle a sa signification. Abraham écouta l'appel de Sarai. Alors on met en parallèle, vous voyez, Abraham qui écoute l'appel de Sarai comme Adam écoute l'appel d'Ève. C'est pas un parallélisme entre les deux. Non, c'est peut-être des gens anti-féministes qui disent ça, mais il y a un petit quelque chose, hein, un petit parallélisme entre les deux. Abraham écouta l'appel de Sarai. Et 10 ans après qu'Abraham s'était établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit à garde l'Égyptienne, son esclave. Alors l'Égyptienne, c'est toujours les rapports avec l'Égypte, hein, toujours cette chose très mystérieuse. Et alors l'Égyptienne est esclave ici. Et le peuple d'Israël deviendra esclave de l'Égypte, hein, oui. Dans la conduite de Dieu. Une espèce de justice immanente, hein, comme il y a de temps en temps dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on retrouve cela. Prit Agar, l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Là, il y a l'orgueil. Donc, il y a une faute. Alors évidemment, on ne peut pas dire qu'à cause de ça, Sarai avait mal agi. Mais on voit très bien qu'il y a une division qui se fait à l'intérieur du ménage, de ce foyer. Sarai dit à Abraham, que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. Alors le pauvre Abraham, il va tout recevoir. Il n'a pas été justement suffisamment confiant à Dieu en disant, mais attendons, la promesse de Dieu est là. Comment Dieu fera, je n'en sais pas. Il aurait peut-être dû prier un peu plus. Hein. C'est possible. Il y a là quelque chose qui nous est dit. Alors évidemment, certains expliqueront tout simplement selon les coutumes. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas dans les coutumes. Hein. Nous sommes dans une conduite directe de Dieu sur Abraham. Et alors on voit le conflit, et ça serait très intéressant pour une théologie à voir, on voit le conflit entre la promesse de Dieu et la foi, et les coutumes. Alors est-ce qu'Abraham a eu vraiment une totale confiance en la parole de Dieu? Et le poids des coutumes n'a-t-il pas été plus fort que la parole de Dieu? Hein? Vous voyez le conflit qui peut exister entre les traditions familiales et religieuses et la foi. Le drame de l'Église aujourd'hui. Hein? Parce que c'est un conflit entre les deux. La foi dans toute sa pureté, et puis les traditions. Et à certains moments, on opte pour les traditions. Parce que les traditions, ça se voit, et la foi, ça ne se voit pas. Les traditions, c'est immédiatement efficace, et la foi, c'est pas immédiatement efficace. Alors on opte pour les traditions du jour. Et je peux très bien essayer de comprendre ça comme ça. Il y en a quelque chose qui me semble intéressant à noter, parce que c'est le conflit comme exemple, hein, comme exemple de conflit. Comme exemple de conflit entre tradition religieuse et foi. L'autre jour, à Nantuane, on avait demandé devant des jeunes d'expliquer la différence entre les traditions religieuses et la foi. C'est un magnifique exemple. Je n'ai pas pris. On le prend après coup, hein. Je le prends pour nous. Parce que c'est des questions très actuelles, ces questions-là. Et très importantes. Alors c'est intéressant d'essayer de noter dans l'écriture chaque fois qu'on peut noter la différence entre les deux. Alors ici, je crois qu'on peut très bien l'expliquer de cette manière-là. Abraham écouta l'appel de Sarai. Donc, on va écouter les traditions. Et au point de vue traditionnel, c'est normal. Et alors, et on souligne, hein, et 10 ans après qu'Abraham était établi au pays de Canaan, Sarai, femme, prit Agar, l'Égyptienne, son esclave, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham, que l'injure qui m'est faite retombe sur toi, c'est moi qui ai mis mon esclave dans ton sein. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Yahvé juge entre moi et toi. Elle est incommode, Sarai. Ça, c'est sûr. Abraham dit à Sarai, voici ton esclave entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semblera. Alors, est-ce que c'est de la lâcheté de la part d'Abraham? Ou est-ce que on ne peut pas faire autrement? Parce qu'il y a comme autre que ça de voir. Il faut demander au Saint-Esprit, ça. Abraham dit à Sarai, voici ton esclave entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semblera. Donc, il s'en lave les mains, hein. Je ne suis pas content, mais c'est quand même toi qui as fait ça. Maintenant, arrangez-vous. Alors, Sarai l'humilia. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc, on voit bien l'orgueil qui ne peut pas accepter l'humiliation. Ça, c'est sûr. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une source d'eau dans le désert. Alors l'ange de Yahvé a toujours cette formule si magnifique, si étonnante. Qu'est-ce que c'est que l'ange de Yahvé? C'est l'action directe de Dieu. C'est l'action de Dieu qui intervient directement. L'ange de Yahvé qui vient pour agiter l'eau, hein, l'ange de Yahvé. Je crois que c'est la première fois que nous voyons l'ange de Yahvé. C'est pour ça que c'est intéressant à noter. Une petite fiche sur l'ange de Yahvé. En fait, une petite fiche sur l'ange de Yahvé. Parce que c'est important, ça. Il faut faire une fiche sur l'ange de Yahvé pour essayer de comprendre ce que c'est à travers toute l'écriture, ces interventions directes de Dieu. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une source d'eau dans le désert. La source qui est sur le chemin de cour. Il dit, Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle dit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. C'est la fuite pure. La fuite pure, on ne sait pas où on va, on sait très bien d'où on vient. C'est ça la fuite pure. Hein. Et vous avez là un exemple merveilleux de Sarai, d'Agar qui fuit. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de Yahvé lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alors, l'intervention directe de Dieu, hein. Un acte d'humilité. L'orgueil fait qu'on fuit. Parce qu'on n'accepte pas qu'un autre passe devant. Alors on fuit. Et on va le plus loin possible dans la fuite. Il y a quand même une espèce d'absolu dans la fuite. Hein. La fuite, au point de vue passion, c'est quelque chose d'absolu. Ça nous paraît comme quelque chose d'absolu. Eh bien l'ange vient là, il l'éduque. Retourne chez la maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et retourner chez sa maîtresse, vous voyez pourquoi, hein? C'est quand même, c'est le fils d'Abraham. Faut pas l'oublier. L'ange de Yahvé lui dit, je multiplierai ta postérité au point qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. L'ange de Yahvé lui dit, voici que tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. car Yahvé a entendu le cri de ta misère. Donc, le Dieu entend, hein, Ismaël, Dieu entend. Dieu a entendu le cri de ta misère. Dieu qui entend le cri de la misère. Yahvé a entendu le cri de ta misère. Celui-ci sera un onagre d'homme. Alors, un onagre d'homme, ça c'est une expression extraordinaire. C'est-à-dire un homme comme un âme, comme un âme sauvage. Osée 8-9. C'est-à-dire indépendant, vagabond, batailleur, vivant à l'écart de ses frères sédentaires. Bon, c'est l'homme. C'est un homme, quoi. C'est celui qui n'aime pas d'être lié aux autres. Un onagre d'homme. Sa main sera contre tous. Et la main de tous contre lui. Il demeurera en face de tous ses frères. Vous voyez la division, hein? Très mystérieux, ça. Parce que c'est quand même la première division intestine au milieu de la famille. Alors, on comprend très bien comment l'initiative de Sarai, vous voyez, aboutit à une division, aboutit à une espèce d'opposition. Et il y a une bénédiction de Dieu. Théologiquement, oui, c'est des choses qui sont très difficiles à expliquer, ça. L'ange de Yahvé lui dit, je multiplierai ta postérité au point qu'on ne pourra la compter, tant elle sera grande. L'ange de Yahvé lui dit, voici que tu es enceinte et tu enfanteras un fils, tu l'appelleras le nom d'Ismaël. Donc c'est vraiment Dieu qui annonce. Il y a quand même une permission de Dieu, non seulement une permission de Dieu, mais une certaine bénédiction de Dieu pour cette multiplicité. Mais cette multiplicité en même temps est une espèce d'opposition vis-à-vis de ceux qui seront les frères. C'est un lieu très important, ça. On va y revenir, du reste, parce que si c'est là. On va voir. Agar appela Yahvé, qui lui parlait du nom de Atta El Raï. Car, dit-elle, n'ai-je pas vu ici celui qui me voit? Atta El Raï, toi, Dieu de vision, c'est-à-dire tu es un Dieu qui voit, et qui se laisse voir. Donc c'est le Dieu qui voit et qui se laisse voir. C'est la contemplation. Ça, c'est bien ça. C'est la contemplation. Atta El Roi. Car dit-elle, n'ai-je pas vu ici celui qui me voit? Voilà pourquoi on a appelé ce puits de la Haï-Roi. Il se trouve entre Kadek et Bered. Ce puits, celui qui s'appelle le puits du vivant qui me voit.
le puits du vivant qui nous vend.
Ça reste mystérieux, hein. Cette rencontre d'Agar avec l'ange de Yahvé qu'il y avait lui-même, qui fait cette promesse, et la servante qui voit Dieu. L'Égyptienne qui voit Dieu. Et qui voit Dieu avant sa maîtresse. Parce que Sarai, pendant ce temps-là, n'a pas une vision de Dieu. Tandis qu'elle a une vision de Dieu, là. Attends, Elroy. C'est l'Égyptienne. C'est intéressant parce que c'est toujours la même chose. D'essayer de comprendre un peu l'influence de l'Égypte et d'Israël. Hein. Voir ses interférences voulues par Dieu. Et comment le plus petit, le plus délaissé, le plus abandonné. Elle est vraiment la servante. C'est la servante qui a été abandonnée, humiliée. Et elle accepte d'être humiliée. C'est à partir du moment où elle accepte d'être humiliée qu'elle voit Dieu. Agar enfanta un fils à Abraham. Alors vous comprenez très bien. Pourquoi il faut qu'elle retourne? Parce que ce fils, c'est le fils d'Abraham. Ça me semble très net, alors. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela son fils, que lui avait enfanté Agar, du nom d'Ismaël. Ce nom a été donné par Dieu. Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alors, on sait très bien, et nous y reviendrons, parce que c'est quand même très, très curieux, cette histoire. Si vous regardez uniquement au point de vue de l'histoire, au point de vue, voyez, fait divers, c'est pas ça du tout. Hein. Il y a quelque chose de très profond de voir comment, même si Sarai a manqué de foi, même si Sarai a manqué de foi, je maintiens cette interprétation, même si Sarai a été trop précipitée, la précipitation de la femme, donc il y a manqué de foi, le bien-être de Dieu qu'elle n'a pas attendu avec suffisamment d'attente, de patience. Dieu rattrape toujours. Dieu ne boude jamais. Alors ça, je crois que c'est un des grands principes de l'ancienne alliance. Ce qui est très important à voir. Dieu ne boude jamais. Parce que chaque fois que Dieu laisse une permission, Dieu rattrape. Et se sert d'une certaine impatience pour refaire quelque chose de plus grand qu'il ne ferait pas autrement. C'est quand on dit que Dieu écrit droit sur des... avec des courbes, hein, des zigzags. Bon, ça veut dire que Dieu ne boude pas. C'est comme ça que j'interprète au point de vue théologique, et je crois que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Nous, quand nous permettons, nous boudons. Il y a un père de famille ou une mère de famille qui dit à son enfant, « Non, ne fais pas ça. » Et puis le fils, malgré ça, le fait. Alors, le père attend, on va bien voir ce que ça va arriver. Je t'ai dit que ce sera catastrophique, et ce sera catastrophique. Et puis quand la catastrophe arrive, tu vois bien, je te l'avais dit. Et nous sommes comme ça, parce que nous aimons mieux notre idée que l'enfant qui a péché sous nos yeux et qui n'a pas été respectueux de ce que nous disions. Tandis que Dieu aime plus l'homme que ce qu'il commande à l'homme. Et c'est pour ça que Dieu ne boude pas. Même si Sarai a manqué de patience, ce qui est très possible, il y a une hâte de Sarai qui n'est pas tout à fait divine, qui n'est pas celle de Marie. Alors même si Sarai a manqué de patience, Dieu rattrape l'impatience de Sarai. Cette impatience de Sarai, qui a fait que la servante est passée devant. Donc, elle a tout désordonné. Elle a laissé passer la tradition religieuse par rapport à la promesse. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait selon Dieu. Et la servante, on l'a glorifié. Et donc, il y a eu le désordre. Elle a chassé la servante. On voit très très bien tout ce désordre qui est impliqué dedans. Et malgré ça, Dieu bénit Ismaël. Il y a une bénédiction de Dieu. Mais Ismaël va représenter un honorable d'homme. C'est pas commode quand on est un honorable d'homme. Un homme comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, c'est la main de tous contre lui. Donc il va mettre la division. Il demeurera en face de tous ses frères. Pas de coopération. Il est l'adversaire en face. Il est celui qui s'oppose. Et malgré ça, je crois qu'on peut dire qu'il y a une bénédiction de Dieu. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu a le temps, vous voyez, qu'est-ce que c'est 99 ans pour Dieu ? Il y avait apparu Abraham et lui dit, « Je suis El Kadaï, marche devant moi et sois parfait. Je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Donc, nouvelle alliance. Alliance reprise au point de vue de la fécondité. Et reprise dans une force nouvelle. Pour montrer que Dieu est toujours là. Marche devant moi et sois parfait. Je mettrai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Mais ce que nous faisons, n'est-ce pas ? Abraham n'avait pas fait ça au cœur. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en ces termes. Donc quand vous tombez sur la face, Dieu vous parle. Il ne faut pas l'oublier, donc écoutez. Il ne faut pas dormir. Et Dieu parla en ces termes. Voici que mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de nations. Donc, changement de nom. C'est très important ça, selon la grande tradition. Changement de nom. Car je te fais père d'une multitude de nations. Je te ferai fructifier à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ta postérité après toi dans ces générations. Une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta postérité après toi. La paternité d'Abraham va rejoindre le sacerdoce de Melchisédek. Extraordinaire. Qui est prête pour l'éternité, la paternité, dans la fécondité éternelle. Donc, il y a là quelque chose de très nouveau, qui est merveilleux, comme alliance de Dieu avec ce Père. Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta postérité après toi, dans ces générations. » Et voici mon alliance que vous observerez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle chez vous sera circoncis. La voilà le signe de la nouvelle alliance. Alors, ce signe, alors, première, vous voyez, j'allais dire, première invention de Dieu des sacrements. Tous les pères de l'Église ont vu le signe de la circoncision comme préfiguration du baptême. Donc le signe de la circoncision est nettement un signe divin, c'est donné par Dieu, pour montrer le lien avec lui pour l'éternité. Et voici mon alliance que vous observerez entre moi et vous, ta postérité après toi, tout mâle chez vous sera circoncis. Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce. Et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Le signe. Pas sacrement dans le sens du nouveau sacrement, mais sacrement dans le sens que c'est un signe. Un signe tangible. Un signe dans la chair. Pour montrer que cette alliance n'est pas seulement une alliance spirituelle avec la parole, mais c'est une alliance déjà qui descend dans la chair. Donc, qui annonce le Verbe devenu chair. À l'âge de 8 jours, tout mâle sera chez vous, tout mâle chez vous sera circoncis. dans vos générations, qu'il soit né dans la maison ou acquis à prix d'argent de n'importe quel fils d'étranger qui n'est pas de ta postérité, on devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis de ton argent. Et mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Alors, vous voyez, c'est très intéressant à voir, c'est que le signe devient plus important que le lien selon la chair et le sang. Parce que qu'il soit ton vrai, ton véritable enfant selon la chair et le sang, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, il doit être circoncis. Et donc le signe va donner l'extension déjà à l'alliance qui n'est plus uniquement selon la postérité, selon la chair et le sang. C'est un signe qui vient d'en haut, c'est un signe qui vient de Dieu. Alors il a cette universalité. Il dépasse les liens de la chair et du sang. Mais déjà dans l'ancienne alliance, il y a ça. C'est très important ça, à bien souligner. L'incirconcis, le mâle qui n'a pas été circoncis dans la chair de son prépuce, cet homme-là sera retranché d'entre les siens. Il a rompu mon alliance. Oui. Je crois que c'est le premier moment où on commence à comprendre que l'alliance vient d'en haut. Nous savions déjà, puisque les véritables enfants d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Ce n'est pas ceux qui sont selon la chair et le sang. Les véritables enfants d'Abraham, la véritable, ce sont ceux qui... Et alors ici, c'est montré d'une façon très nette. Parce que c'est le signe de l'alliance. C'est justement la circoncision. Et la circoncision a donc cette valeur qui dépasse le lien de chair et du sang. C'est déjà dit avant, puisque c'était dit la foi d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Mais pour qu'on comprenne mieux, il faut qu'il y ait le signe qui vient montrer, de façon tangible, ce que représente cette alliance dans la foi. Dieu dit à Abraham, Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Saraï, mais son nom est Sarah. Je la bénirai. Première fois, Dieu regarde Sarah.